La vie de William Dewsbury, suite, chapitre 1654. William Dewsbury emprisonné à York, circonstances de son arrestation, malveillance du connétable, poursuivi jusqu'à Craig et arrêté là à minuit, mauvais traitement supporte 3 mois d'emprisonnement, innocence, emprisonné à Derby, refuse de quitter la prison sans l'intervention des magistrats, est donc jeté dehors, traduit devant le maire à Leicester, chassé de la ville, mais revient se rend à Northampton, traitement que lui inflige Thomas Andrews, saisi par le haut connétable, mais remis en liberté Francis L. Au premier mois de 1654, nous trouvons cet homme fidèle à York. Il fut jeté dans la prison de cette ville sous le nom de séducteur, avec l'accusation suivante, à savoir, pour avoir séduit le peuple de cette nation, et pour suspicion de blasphème et de trouble à la paix publique, en répandant des principes contraires à la vérité de l'Évangile et à la paix de la nation. Edward Ball, prêtre de York, fut son accusateur. Il produisit un écrit où il l'accusait, outre les autres allégations, d'être un meneur des personnes appelées Quakers. Comme les assises générales se tenaient alors, cet écrit fut remis par le président du grand jury à Hugh Wyndham, qui siégeait comme juge au banc du tribunal criminel. Il délivra aussitôt, en audience publique, un mandat d'arrêt contre Dewsbury. Les charges étaient graves, et l'agitation de l'opinion publique était alors si grande, à la suite d'un complot soupçonné contre Cromwell, que les gens étaient prêts à croire sans examen ni preuve, et l'explication des faits et des circonstances, la plus simple et la plus directe, profitait généralement fort peu. Dans la poursuite de ses travaux religieux, William Dewsbury s'était entre-temps rendu à Saltrop, où le connétable, davantage un soudard qu'un agent de la paix, vint l'attaquer. Pendant qu'il se trouvait à une réunion et qu'il était engagé avec d'autres dans l'acte solennel d'attendre Dieu, l'officier se précipita parmi eux et, manifestement dans l'intention de blesser William Dewsbury, l'attaqua à 2 reprises avec une fourche de fer. Mais, dit-il, le Seigneur, par sa puissance, l'enchaîna et empêcha ses desseins sanguinaires. Ainsi déçu, il se rendit néanmoins à Kirby Roll, résidence de Thomas Dickinson, juge de paix, et y renouvela son accusation, obtenant un autre mandat pour l'arrestation et l'emprisonnement de Dewsbury, fondé en partie sur celui qui avait auparavant été délivré par le juge Wyndham. À Craig, petite ville située à environ 25 milles au nord-ouest de York, il fut appréhendé par John Lockwood, le haut connétable, entre les mains duquel, semble-t-il, le mandat avait été remis. Cet officier, fort différent du précédent, et désireux de s'éviter des tracas, proposa qu'il restât cette nuit-là chez ses amis, l'heure étant tardive, à condition qu'il se porte garant de sa comparution le lendemain. Mais Dewsbury leur dit avec fermeté que nul ne se porterait garant pour lui, il ne désirait pas davantage de faveur de la part des hommes, puis, se tournant vers le connétable, il dit « Si vous avez pouvoir sur le corps, faites-en ce que vous avez pouvoir de faire. » Mais comme la nuit tombait, l'officier lui dit de rester chez son ami jusqu'au lendemain. Dewsbury l'assura alors qu'il était prêt à l'accompagner au moment fixé, si le Seigneur le voulait. Ce court répit lui donna, à lui et à ses amis, l'occasion de s'asseoir ensemble pour attendre Dieu, exercice toujours profitable, mais jamais plus que dans les difficultés et les détresses. Ainsi occupé durant la nuit, avec beaucoup de serviteurs et d'enfants du Seigneur, attendant celui qui est digne qu'on l'attende et qui est bon pour les âmes qui l'attendent, pour les âmes qui le cherchent, et la nuit étant déjà fort avancée dans cet exercice, ils furent surpris par les habitants de la ville, avec le haut connétable à leur tête, contrairement à son propre engagement, qui entourèrent la maison et s'attaquant aux portes et aux fenêtres avec une grande fureur, décidèrent de disposer eux-mêmes de Dewsbury. Lorsque, dans leur rage aveugle, ils eurent mis la main sur cet innocent serviteur du Seigneur, ils le poussèrent le long de la rue, criant d'une auberge à l'autre, jusqu'à en trouver une où l'on pouvait entrer. Cela fait, ils le confièrent à la garde de 2 hommes jusqu'au lendemain. Et le matin, il fut conduit devant Dickinson, qui, ne pouvant rien prouver contre lui, le fit envoyer au château de York, en vertu du mandat précédemment délivré par le juge Wyndham. Dans une lettre originale écrite du château de York le 2 jour du 5 mois, William Dewsbury s'étend longuement pour commémorer les voies du Seigneur envers lui. Il avait vu se manifester la grande puissance de Dieu, qu'il avait portée dans le service de l'Évangile, préservant et soutenant merveilleusement son corps à bien des reprises, quand il semblait livré à la mort. Et bien que les complots et les pièges des hommes mauvais eussent abondé contre lui, aucun ne fut permis de prévaloir. Il plut à mon cher père qu'il n'eût aucun. Éditeur, là, innocent de la commission de tout véritable crime, il fut détenu prisonnier jusqu'aux assises générales, qui eurent lieu le 22 au jour du 5 un mois suivant, lorsque le juge Wyndham siégea de nouveau. Cette occasion pour l'amour de la vérité, et afin que rien ne pût rejaillir injustement ni sur la sainte co elle-même ni sur celui qui souffrait pour elle, les amis recherchant toujours l'examen dans un procès public, intercédèrent avec insistance auprès du juge pour que le prisonnier eût les mêmes avantages que ceux accordés aux voleurs et aux meurtriers, à savoir d'être confronté à ses accusateurs et alors, si l'on pouvait prouver contre lui la transgression d'une loi juste, ils étaient prêts à ce qu'il en souffrît la peine, comme lui. Rien ne pouvait être plus équitable, et accusé publiquement comme il l'était, et maltraité comme il l'avait été, il avait le droit d'exiger la protection de la loi. Le juge lui promit un procès équitable, mais manqua à son engagement, car William Dewsbury ne fut jamais, sur ses chefs, amené devant lui. Au contraire, à la clôture des assises, il fut acquitté par proclamation et mis en liberté le 24e jour du 5 mois. Ainsi traitèrent-ils cet homme innocent. Il fut appréhendé comme un criminel, maltraité comme quelqu'un que la loi aurait placé hors de sa protection, jeté en prison sur des accusations vagues, vides et malveillantes, sans l'ombre d'une preuve, détenu pendant 3 mois, puis sans qu'on lui donnât la possibilité de défendre son honneur, il fut remis en liberté, sans doute afin que son accusateur, le prêtre Bow, échappât à la honte qu'aurait nécessairement entraîné un examen impartial en audience publique. La lettre suivante, adressée par William Dewsbury à Margaret Fell, intéressera le lecteur, car elle donne son propre récit de ses circonstances. Elle est copiée sur l'original, éditeur. « Ma chère sœur, dans le Seigneur Jésus, en qui ma vie est liée à vous, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs dans la vérité de Dieu, dans votre famille et ailleurs, mes entrailles d'amour vous saluent tous dans le Seigneur, en qui mon union est avec vous, votre famille et tous les enfants de mon Père ici et ailleurs. Ô les richesses éternelles de l'amour de notre Dieu, qui a créé toutes choses pour son bon plaisir, et qui nous a choisis dans son libre amour, et nous a rendus participants des richesses éternelles qu'il a mises en réserve pour nous en Jésus-Christ, amour qui triomphe de toutes choses et qui contraint à offrir à mes corps en sacrifice vivant à la volonté de notre Père céleste, pour qu'il en dispose selon le conseil de sa propre volonté, lui qui les a créés pour sa gloire, lui seul digne de toute gloire, honneur, puissance et louange à jamais. Ma chère sœur, grands ont été les complots de la nature d'Aman, à l'approche de ses assises, pour trouver quelque chose contre nous, afin de nous faire tomber sous leur loi et satisfaire leur volonté, mais dans toutes leurs trames secrètes et leurs œuvres de ténèbres, notre Père céleste les a mises en lumière. J'ai été poussé à écrire au prêtre Bol. Le Seigneur le frappa d'une telle terreur qu'il ne sut comment s'y prendre pour couvrir sa tromperie, car la terreur du très haut était sur lui, si bien qu'il écrivit à Oliver Cromwell. Quand il envoya la lettre, Cromwell prononça ces mots en la lisant, « Il voudrait que je désavoue ce peuple, devrais-je les désavouer parce qu'ils ne veulent pas ôter leur chapeau ?» Et le haut shérif vint vers moi pour disculper Bol, mais la puissance du Seigneur coupa court à sa tromperie, et il s'en alla de moi en grande rage, disant que j'étais le plus diabolique des hommes, avec bien d'autres paroles amères. Ensuite Bowles envoya vers Thomas Fairfax, qui fut autrefois l'un des généraux de l'armée, et Bowles lui dit qu'il l'avait entraîné à me faire jeter en prison, et qu'il pouvait l'en tirer. Ainsi l'homme charnel se réfugia dans le bras de chair, mais mon Dieu, qui est mon refuge, le poursuivit de terreur et fit que l'effroi surprit l'hypocrite où qu'il alla. Ils proférèrent donc de grandes paroles sur ce qu'ils feraient aux assises, comme Aman, qui fit dresser le gibet pour Mardoché. Mais la puissance du Seigneur les piétina, et une grande frayeur surprit le prêtre Bowles, le shérif et le juge, de sorte que, comme ils étaient en peine d'accomplir leur dessein de jeter mon corps en prison comme ils le désiraient, afin de le couvrir là de calomnies mensongères, et comme les Philistins furent frappés pendant qu'ils avaient l'arche de l'Alliance jusqu'à ce qu'ils la renvoyassent, ainsi furent-ils, ils n'osèrent pas me faire compas. Et comme les Philistins renvoyèrent l'arche par le même chemin qu'elle était venue, de même ceux qui m'avaient jeté en prison par leurs fausses accusations furent contraints de faire une proclamation publique au tribunal et dans la cour du château, lorsque la population était rassemblée, disant que si quelqu'un avait quelque chose contre moi, qu'il le dise, me lavant ainsi de toutes ces calomnies mensongères, ils me donnèrent un sauf-conduit pour sortir. Et ainsi le Seigneur prend les sages à leur propre ruse. Louange à jamais à son grand et glorieux nom, lui qui fait lever sa propre semence dans le cœur de ses enfants pour obéir à sa volonté, et qui nous a gardés hardis, vaillants et fidèles en ce jour d'épreuve. Le capitaine Bradford, et les amis appelés au service à ces assises, ont été gardés hardis, vaillants et fidèles selon leur mesure, foulant aux pieds la chair orgueilleuse dans sa gloire. Ma chère sœur, le Seigneur Dieu de puissance est avec vous, lui qui vous a choisi dans son amour éternel, pour rendre témoignage à son grand et glorieux nom, et que sa puissance éternelle repose sur vous, pour abattre toute tromperie, afin que ses tendres plantes soient arrosées par les ruisseaux de son amour éternel coulant à travers vous dans le Seigneur Jésus, où vous vous portez bien, et là je suis avec vous, votre cher frère, dans l'être éternel. Commentaire de l'éditeur du site William Dewsbury. La maison de Margaret Fell, Swarthmore, fut le berceau du mouvement Quaker. Elle et son mari, le juge Fell, ouvrirent leur demeure aux premiers Quakers comme lieu de refuge et de réunion fréquente. Des Quakers du monde entier s'y rendaient pour apprendre et grandir spirituellement. La présence de Quakers venus de 5 à 6 pays différents était chose courante. Elle fut aussi le point central où la plupart des Quakers écrivaient leurs nouvelles, auxquelles elle répondait fidèlement avant de les transmettre à d'autres. On la connaissait comme la mère des Quakers pour ses soins, son soutien spirituel et l'encouragement prodigué à tant de personnes. 11 ans après la mort de son mari, Le juge Fell, elle épousa George Fox, le père du mouvement Quake. Étant maintenant délivré des mains des hommes déraisonnables, il poursuivit son voyage comme le Seigneur le lui dirigeait, proclamant sa parole à Cleveland et dans d'autres parties du Yorkshire, à travers le Nottinghamshire, puis jusqu'à Derby. Il est satisfaisant de pouvoir introduire ici la plus grande partie d'une courte lettre adressée à un ami, qui nous fournit au moins quelques renseignements sur ses déplacements dans le ministère à ce moment précis, éditeur. Dieu ouvre une porte à sa vérité dans beaucoup de grandes villes du Yorkshire, où elle a été mise au grand jour, comme Halifax, Leeds, York, Beverly Hull, et depuis que j'ai pourvu aux besoins de ma famille qui reposait sur moi, j'ai beaucoup fréquenté ces grandes villes en passant vers le sud, comme Lincoln, Nottingham, New Oakham, Leicester, Wellingborough, de grandes réunions partout, un peuple sensible s'avance version, après être resté à l'écart, New Oakham le moins. À Leicester, nous nous sommes réunis au château avec une foule très nombreuse, ce soir-là, grande réunion à l'auberge du White Hart, où nous logeons. Si Dieu le veut, je serai à une réunion générale à Northampton le prochain 3 jours, et à Leicester le premier jour suivant. William Dewsbury n'avait toutefois pas été libre plus d'un mois, que son sort le ramena de nouveau entre les murs d'une prison. Car alors qu'il prêchait aux habitants de Derby, il fut saisi et conduit devant les sessions générales de la ville, qui se tenaient alors. Cela eut lieu le 24 jour du 6 mois. Lorsqu'il fut amené au tribunal, l'un des juges de paix, probablement parce qu'il n'ôtait pas son chapeau, lui dit d'un ton assez magistral, sans doute, en la présence de qui vous tenez-vous maintenant. À quoi William Dewsbury, je conclurai, d'après son caractère général, non pas légèrement, mais dans le sentiment qu'il convenait de répondre ainsi alors, répondit, en la présence du Dieu éternel. Sur ce, on ordonna au geôlier de l'emmener et de le mettre en prison pour avoir troublé l'audience, ce qui fut fait. Vers le soir, le maire le fit venir pour lui demander ce qu'il était venu faire. Il répondit, déclarer la parole du Seigneur aux consciences des habitants de Derby. Le maire lui demanda alors s'il voulait sortir de la ville. Dewsbury refusa, disant, quand le Seigneur m'ordonnera de partir, alors je partirai, jusque-là je resterai. Le maire ordonna, alors qu'il fut reconduit à la prison. Le lendemain dans la matinée, l'un des officiers du maire lui fut envoyé pour lui dire que, s'il consentait à sortir de la ville et promettre de ne pas revenir, il ouvrirait les portes de la prison et il pourrait partir. Alors William Dewsbury, qui avait d'ici là montré qu'il n'était pas un homme d'un courage ordinaire, répondit « Je ne sortirai pas de la ville jusqu'à ce que le Seigneur me l'ordonne. Et si vous ouvrez la porte, je ne sortirai pas de la prison jusqu'à ce que l'homme qui a dit avoir autorité pour m'y mettre vienne. » Il est probable que le prisonnier soupçonnait un piège. Quant à l'intention du maire, il n'est pas facile de la dire. Que celui-ci, conscient de l'illégalité de ses actes, ait été intimidé par cette conduite résolue de William Dewsbury, ou qu'il ait agi par un autre motif, on ne le sait pas. Mais il est pour le moins curieux que peu après, l'homme sous la garde duquel il avait été incarcéré fut envoyé pour le relâcher, et celui-ci le prenant par le bras, non avec prière, comme ce fut le cas pour Paul lorsque, avec Sila, il était détenu à Saeta, mais avec beaucoup de colère, le jeta dehors et le remit à un autre officier. Cet homme avait ordre de le mettre hors de la ville, ce qu'il fit, l'accablant de menaces, de s'en aller et de ne pas revenir. Mais William Dewsbury, se sentant agir sous des ordres plus élevés et sachant qu'il n'avait transgressé aucune loi juste, considéra ses paroles comme celles d'hommes vains, et sans s'en soucier, revint aussitôt et demeura à Derby jusqu'à ce qu'il se sentît libre en son esprit de la quitter. Lorsque ce moment arriva, il poursuivit sa route vers Leicester, et là, le 3 jour du 7 mois, premier jour de la semaine, une grande foule de personnes s'assembla pour l'entendre, et il leur déclara la parole du Seigneur. Après que le témoignage de Jésus leur eut été rendu, il se rendit au lieu de culte public, et lorsque l'orateur eut terminé, William Dewsbury prêcha à l'assemblée la parole de la vie éternelle, et on l'écouta avec une grande attention. Mais avant qu'il eût fini son témoignage, 2 officiers se saisirent de lui et, avec violence, le conduisirent devant le maire de la ville, qui le fit incarcérer sans examen, et donc sans preuve d'aucun acte illégal ou désordonné. Le lendemain, il fut de nouveau amené devant le maire et une autre autorité, qui l'examinèrent alors, mais ne purent trouver rien qui justifiât sa détention. Ils ordonnèrent, toutefois, aux gardiens de la prison commune de le mettre hors de la ville et, comme les autorités de Derby l'avaient fait auparavant, lui enjoignirent strictement de quitter leurs frontières, avec de nombreuses menaces sur ce qu'il ferait s'il revenait. Mais comme précédemment, sans tenir compte des menaces des hommes, par obéissance au commandement du Seigneur, il revint pour achever son témoignage aux habitants de Leicester, dont il ne s'était pas auparavant senti dégagé quant au sang. Dès que William Dewsbury, se soumettant aux impressions de l'esprit de vérité, se crut libre de quitter Leicester, il poursuivit son voyage dans le Northamptonshire et se rendit à Wellingborough pour visiter le troupeau de Dieu dispersé alentour. Il y demeura quelque temps, trouvant beaucoup de personnes dans ce voisinage dont l'esprit s'ouvrait à recevoir la parole de vie avec beaucoup d'allégresse de cœur. Un événement se produisit dans cette ville qui, finalement, lui valut quelques mois d'emprisonnement à Northampton. Il montrera aussi que ses travaux furent assez fructueux pour susciter le déplaisir et la jalousie d'un prêtre résident, nommé Thomas Andrews. Alors qu'il passait dans la rue près de la demeure de celui-ci, le prêtre l'interpella, lui ordonnant de cesser de tromper le peuple, de peur que les plaies de Dieu ne tombent sur lui. Dewsbury répondit, « Si vous dites que je trompe le peuple, montrez comment je le trompe. » Il répondit, « Vous leur dites qu'il n'y a pas de péché originel. » Dewsbury lui demanda alors de dire s'il l'avait entendu dire cela. Mais lui n'y répondant pas, l'autre lui dit qu'il devait soit prouver ce dont il l'accusait, soit s'avouer condamné pour fausse accusation. Il se hâta cependant de s'éloigner sans répondre. Environ 3 semaines plus tard, à savoir le 29 jour du 10 mois 1654, William Dewsbury, ayant été absent de Wellingborough entre-temps, sentit qu'il était de son devoir religieux. « Le Seigneur me l'ordonna, dit-il, de revenir au lieu. » Et apprenant qu'il devait y avoir une leçon dans la maison où Thomas Andrews prêchait, lui qui l'avait ainsi accusé faussement et publiquement, il s'y rendit pour l'amour de la vérité, entra dans la maison et resta en silence jusqu'à ce qu'Andrews eût fini de prêcher. Il saisit alors l'occasion d'exhorter la congrégation, qui l'écouta sans opposition. Après cela, s'adressant au prêtre, il l'appela à montrer clairement au peuple comment il l'avait trompé ou à confesser son erreur. Sans répondre, il se retira de nouveau, il s'enfuit. Malgré le caractère raisonnable de la conduite de Dewsbury, qui était la partie offensée, il fut traîné hors de la maison de réunion par un homme plus zélé que judicieux juste dans la cour. Là, il profita de l'occasion qui lui était encore donnée de prêcher à la multitude rassemblée, qui restait paisible pour l'écouter, jusqu'à l'arrivée du haut connétable, qui le saisit et le conduisit comme un criminel sur la place du marché, menaçant de l'accuser de blasphème. Lorsqu'on constata que rien ne pouvait être prouvé contre lui, il fut relâché. Il se retira alors dans la maison de son ami Francis Ellington et d'une fenêtre à l'étage prêcha aux personnes rassemblées en bas, dont beaucoup reçurent la parole avec beaucoup d'amour. Ellington devint peu après son compagnon de captivité. Cet ami était un important fabricant de draps à Wellingborough. Voici comment il fit la connaissance de William Dewsbury. Dans le cours de ses affaires, il se trouvait à une foire à Harborough dans le Leicestershire, où il entendit dire qu'un « homme du Yorkshire » séjournait dans la maison d'un ami de cette ville et qu'il avait l'intention, ce jour-là, de tenir une réunion pour déclarer la parole du Seigneur au peuple. Francis Ellington se rendit à cette réunion et fut pleinement convaincu que la parole du Seigneur y fut réellement prêchée, car telle était la puissance qui accompagnait, qu'elle éclaira son intelligence pour voir le chemin de la vie éternelle, ce que, dit-il, j'avais longtemps cherché dans mon imagination des conditions des saints. Lorsque la réunion fut terminée, cédant à une forte impulsion d'unité religieuse, il pria William Dewsbury, en tant que serviteur du Seigneur, de venir chez lui dès qu'il se sentirait libre en son esprit de le faire, ce qui semble avoir été l'occasion de la présente visite, mais pour poursuivre notre récit. Le lendemain, le connétable, ayant obtenu un mandat pour l'arrestation de celui qu'on appelle communément un Quick, se rendit à la maison de Francis Ellington. Et malgré l'opposition exprimée par ce dernier contre le fait d'arrêter quiconque sur un mandat aussi vague que celui qu'il avait en main, car le nom de la personne arrêtée n'y était pas mentionné, le connétable mit la main sur William Dewsbury, bien que Joseph Storr fût aussi présent, et déclara que c'était l'homme qu'il cherchait, exigeant qu'il se présentât. Il dut le faire le jour même. On le conduisit à la résidence de Thomas Pentlow, qui vivait à Wilby, à 2 miles de là, et qui semble avoir été un persécuteur rigide. Francis Ellington et Joseph Storr, désireux de soutenir leur ami dans cette épreuve, l'accompagnèrent à la maison. Une raison supplémentaire de cet accompagnement était qu'ils avaient aussi une plainte à déposer contre une femme au service du dit juge, qui, quelques jours auparavant, avait importuné Ellington et d'autres en les insultant dans la rue et en leur jetant de l'eau, des pierres et de la boue. Le juge, après avoir interrogé William Dewsbury et trouvé sur lui des papiers adressés à Cromwell, alors protecteur, rédigea un mandat d'écrou, mitimus, et l'envoya à la prison commune de Northampton, pour y attendre les assises du premier mois suivant. Comme le mitimus, entre autres allégations, était aussi dit contenir une accusation de blasphème, Dewsbury fut d'autant plus empressé d'en obtenir une copie, mais cette demande raisonnable lui fut refusée. Quant à la plainte contre la femme, que Ellington et ses amis présentèrent devant le juge Pentlow, elle ne leur valut aucun dédommagement. Après leur avoir demandé des comptes pour s'être trouvés sur ces terres, il leur dit que la femme, à ce qu'il en savait, leur avait donné ce qu'il méritait et qu'il ne ferait rien contre elle, et il leur enjoignit de se présenter aux sessions prochaines, car il enverrait un connétable les chercher afin qu'ils y répondent d'être venus chez lui. Un récit affirme que Pentlow inclut les noms d'Ellington et de Storr dans le mitimus. À la suite d'un tel traitement, Ellington écrivit quelques jours plus tard une lettre au juge, qui l'offensa encore plus profondément et fut la cause de ce qu'il souffrit peu après, pendant plusieurs semaines, en compagnie d'autres amis, dans la prison de Northampton. Un extrait de la lettre d'Ellington servira de preuve historique de certaines transactions liées à ses mémoires et intéressera aussi beaucoup de mes lecteurs, je leur en présente donc l'exemple suivant. Ainsi dit le Seigneur Dieu, soyez sages, ô roi, recevez instruction, vous qui êtes juge ou justice de la terre, servez le Seigneur avec crainte, ne vous tenez pas dans votre propre volonté lorsque vous jugez entre homme et homme, mais tenez-vous dans la volonté de Dieu et rendez un jugement droit, car vous devez tous lui rendre compte des œuvres faites dans la chair, soit bonnes soit mauvaises. Maintenant le Seigneur commence à rugir de Sion et à faire retentir sa voix de Jérusalem, et malheur à tous les habitants de la terre, dit le Seigneur Dieu. Maintenant le temps est venu où nous ne dirons plus « L'Éternel est vivant, qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais « L'Éternel est vivant, qui a fait monter et a conduit la postérité d'Israël hors du pays du Nord, et de tous les pays où je les avais dispersés, et ils habiteront dans leur propre pays ». Jère 23:7-8. Maintenant le Seigneur a fait sortir les nouvelles du Nord pour troubler les habitants de Babylone, et cela les troublera encore davantage, cela les fera se mordre la langue de douleur et blasphémer le Dieu du ciel, car leurs plaies seront extrêmement grandes. Maintenant, c'est à la lumière dans votre conscience, dont Christ Jésus vous a éclairé, qu'il m'est commandé d'écrire ces paroles, afin qu'avec elles vous puissiez examiner et voir comment vous rendez justice, et comment vous avez rendu justice à ces deux fidèles serviteurs du Dieu vivant, que vous avez fait mettre en prison. La loi de Dieu dans votre conscience disait que celui qui prêche l'Évangile a une vocation légitime et n'est pas un vagabond, même s'il n'a pas de demeure extérieure, et l'Esprit de vérité l'a rendu manifeste en la personne de Christ. Et celui qui dit demeurer en Christ doit marcher comme lui-même a marché. Et celui que le Seigneur commande de prêcher l'Évangile, fût-il juge, justice ou quoi que ce soit d'autre lorsque Dieu l'appelle, doit quitter père et mère, femme et enfant et tout, et doit aller prêcher. Car quiconque s'établit dans une paroisse pour y rester toute sa vie afin de prêcher, j'affirme que cette personne n'a jamais été envoyée par Dieu pour prêcher, mais qu'elle est un faux prophète, car il n'y a pas un seul exemple de cela dans toutes les Écritures, et la commission de Christ y est contraire. Mais béni soit le Dieu du ciel, le Seigneur a maintenant suscité, dans le Nord, des juges de paix, des colonels, des capitaines, et plusieurs centaines d'autres, qui parcourent des centaines de milles en prêchant l'Évangile, comme ceux que vous avez fait mettre en prison. Bien que vous emprisonniez les serviteurs du Dieu vivant, Dieu en suscitera d'autres parmi nous, qui seront fidèles à accomplir son message, à crier contre les péchés des grands et des petits, des prêtres et du peuple, dans les villes et les villages, sur les marchés et dans les églises à clocher. Et il crie, « Repentez-vous, craignez le Dieu vivant, et revenez à la lumière de Christ dans vos propres consciences, qui vous convainquent de péchés et de mauvaises actions. Et pour cela, le monde mauvais les persécute, afin d'accomplir les Écritures, en rejetant leur nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme, mais Dieu les a préparés, et ils peuvent souffrir plus que le monde mauvais ne peut leur infliger. Quand les méchants les ont punis autant qu'ils le peuvent, ils pardonnent à leurs persécuteurs et les prennent en pitié. Quand on les frappe, ils ne résistent pas, quand on les maudit, ils bénissent. Ainsi la semence que le Seigneur a fait sortir du pays du Nord a grandi jusqu'à 1000 et 10 000 dans toutes les parties de l'Angleterre, et les hauts cèdres commencent à tomber rapidement en Angleterre, devant cette puissante puissance de Dieu, car le Seigneur est très redoutable devant l'armée du Nord, que le monde moqueur appelle Quakers. Et pourtant, pas un de ces soldats n'a même un bâton à la main, mais ils ont une épée dans la bouche, et avec elle ils tuent les nations. Ainsi donc, vous qu'on appelle juges de paix, vous pouvez les mettre en prison, mais vous ne pouvez pas leur ôter leurs épées, car ils peuvent tuer aussi bien en prison qu'au dehors. L'un d'eux, par la puissance de Dieu, ose affronter des milliers et les vaincre. Celui que vous avez jeté en prison, avec son épée a tué, cette dernière semaine, deux hommes puissants et leur famille dans le Bedfordshire, et il m'a tué, ainsi que des centaines d'autres dans ces contrées, et maintenant vous l'avez envoyé tuer quelques-uns à Northampton avec cette épée dans sa bouche, et je suis sûr que les morts du Seigneur seront nombreux là alentour. Heureuse eussiez-vous été s'il vous avait tué lorsqu'il était chez vous, car vous devez être tué par l'épée, ou bien vous ne verrez jamais votre Sauveur. Ainsi donc, regardez à la lumière de Christ dans votre conscience, et à cette lumière amenez toutes vos mauvaises actions, et à l'épée du Seigneur, et attendez dans cette lumière la puissance de Christ, afin qu'elle croise votre volonté et votre imagination, et cette puissance vous conduira jusqu'à Christ, alors vous prendrez votre croix contre votre propre volonté. Tant que vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas disciple de Christ, quoi que vous professiez. Car si vous professez plus que vous ne possédez, vous êtes un hypocrite. Ainsi, par amour pour votre pauvre âme, je suis mû du Seigneur à vous écrire ceci, et si vous avez une oreille pour entendre, vous l'entendrez. Je demeure donc ami de ce qui est pur, de Dieu, dans votre conscience, Francis Ellington. D'après une lettre de la main de William Dewsbury, adressée à George Fox à cette époque, il semblerait que les travaux de ce serviteur dévoué aient été suivis d'une grande convaincance, selon l'appréciation d'Ellington, et qu'un vif désir prévalut chez beaucoup de voir des amis venir parmi eux. Il laisse entendre qu'une bénédiction accompagnera ceux qui, véritablement attirés et appelés, se donnent au service. Une autre lettre dit ceci : Notre Père a beaucoup de chers gens dans ces contrées, la moisson est grande, un peuple puissant notre Dieu fait naître ici, pour l'attendre afin que sa sagesse les guide à sa louange et à sa gloire. Et ce n'est pas seulement de sa plume, John Whitehead, ouvrier zélé, écrit à George Fox depuis Wellingborough qu'il y a de toutes parts une grande soif, de grandes réunions et beaucoup de convaincance. Éditeur, chapitre Vie 1655. Lettre de William Dewsbury, assise son procès avec d'autres amis, devant les juges Hall et Windham, il refuse de se soumettre à caution, et reste en prison, observation sur le procès, avec remarques sur l'époque crainte éprouvée à l'égard des amis, anecdote concernant George Fox et le colonel Acker, deux lettres de Dewsbury. La lettre suivante, de la main de William Dewsbury, contient un récit bref, mais assez détaillé des circonstances le concernant à cette période. Elle mettra le lecteur en possession d'informations liées aux faits du chapitre précédent, qui autrement feraient défaut et ne pourraient être fournies par aucune autre source. Chers amis, ne soyez pas troublés de la disposition du Seigneur à notre égard, en permettant au diable de nous faire jeter en prison, car avec vous nous sommes dans la liberté de l'esprit, dans l'unité éternelle, qui ne peut être séparée. Je vous ai déclaré l'ordonnance du Seigneur à notre sujet, pour sa louange et sa gloire. Le 10 jour du 11 mois, Joseph Storr, mon compagnon de captivité, et moi fûmes conduits hors de la prison aux sessions, qui se tenaient à Northampton. Là se trouvait John Pock, qui avait infligé une amende à mon frère Thomas Aldam et d'autres, appelés justice, qui étaient dans une grande inimitié contre la vérité. Mais les témoins qui avaient juré contre moi, comme ils disaient pour blasphème, ne comparurent pas contre moi. Le Seigneur les frappa de terreur, l'esprit de mensonge n'osa pas paraître. Ils furent alors confondus dans ce qu'ils avaient porté contre moi, et beaucoup d'amis se montrèrent avec grande hardiesse pour la vérité. Il y avait un juge de paix Crute et James Nagle, qui sont grands dans l'extérieur, leurs demeures sont à Bickering Park, dans le Bedfordshire, et un certain Edward Hackney, avocat à Kettering, dans le Northamptonshire. Il n'y avait pas eu plus de trois réunions avec moi, pourtant l'inimitié de John Pock et de ceux qui étaient avec lui exigea des cautions pour moi, car il disait que j'avais écrit d'étranges papiers au Seigneur protecteur, et que si je ne trouvais pas des hommes pour se porter garant pour moi, je retournerais en prison. Je leur demandai alors qu'ils me lisent la loi que j'avais transgressée, mais ils ne le voulurent pas et appelèrent des cautions. Je répondis, « Il n'y aura personne qui se porte garant pour nous, voici nos corps, faites-en ce que vous avez pouvoir de faire. » Ils ordonnèrent au geôlier de nous emmener. Il ne nous fut plus permis de parler, et nous fûmes conduits et remis en prison, et nous ne pouvons obtenir une copie de notre mitimus, elle nous est refusée tant par le geôlier que par les hommes appelés justice, lorsque cela leur fut demandé en audience publique. Mais la colère de l'homme tourne à la louange de Dieu. Car la vérité de Dieu se répandit largement ce jour-là, et une puissante soif fut suscitée dans le cœur de beaucoup envers le nom du Seigneur, louange à jamais à celui dont les voies sont insondables. Il prend les sages à leurs propres ruses et les renverse dans leurs propres artifices, à leur honte et à leur mépris éternel, mais à la gloire de son nom, lui seul digne, Dieu sur toute chose, béni à jamais, William Dewsbury. William Dewsbury, avec Joseph Storr, dont le nom fut inclus dans le mitimus sans autre crime que celui d'avoir été présent à l'examen de son ami, ayant été incarcéré, furent confinés parmi des voleurs et des meurtriers, 12 marches sous terre, jusqu'aux sessions trimestrielles du mois suivant, ou bien loin de recevoir quelque clémence de la part des juges de paix, on leur refusa de nouveau une copie de leur mitimus, et on les engagea à comparaître aux prochaines assises environ 2 mois plus tard. Francis Ellington s'ajoutant alors à leur nombre, et Henry Williamson, qui avait été cruellement battu et maltraité pour avoir tenté de parler au peuple dans le lieu de culte public après que le prêtre officiant eut terminé, fut lui aussi condamné à boire à la même coupe. Les assises commencèrent le 10 au jour du premier mois 1655, lorsque les prisonniers Dewsbury, Storr et Williamson furent amenés à la barre devant les juges Matthew Hall et Hugh Windham, alors associés dans la même commission. L'interrogatoire suivant eut alors lieu. Juge Hall, êtes-vous Dewsbury, William Dewsbury? Oui, on m'appelle ainsi, juge. Où habitez-vous, William Dewsbury? J'ai une femme et 3 enfants à Wakefield, dans le Yorkshire. Juge, quel intérêt avez-vous dans ce pays pour vous y occuper, puisque vous n'êtes pas resté dans votre propre pays avec votre femme et vos enfants, William Dewsbury? Je suis resté dans ce pays avec ma femme et mes enfants, jusqu'à ce que le Père révèle son Fils en moi, et m'appelle à quitter ma femme et mes enfants pour déclarer sa parole de vie éternelle, qu'il a manifestée à mon âme dans la grande œuvre de la régénération, dans la nouvelle alliance de vie en Jésus-Christ. C'est l'Évangile éternel que je suis envoyé prêcher à ceux qui habitent sur la terre. Juge, je crains que ce ne soit une illusion, vos propres fantaisies, et non la vérité. William Dewsbury, le temps le manifestera, juge. Vous rassemblez les gens et vous agissez contre le ministère et la magistrature. William Dewsbury, alors que vous vous tenez en la présence de Dieu, prenez garde de prêter l'oreille à de fausses accusations. Je reconnais le ministère et la magistrature qui sont de Dieu, mais ceux qui sont appelés ministres du Christ et marchent à l'encontre de l'Écriture, je les désavoue, le juge, mais qui sont ceux qui marchent à l'encontre de l'Écriture, William Dewsbury. Ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine du Christ, mais qui ont la première place dans les assemblées, se tiennent debout pour prier dans les synagogues, aiment les salutations sur les places publiques, et sont appelés par les hommes maîtres, pratique contre laquelle le Christ a prononcé un malheur, et ceux qui la suivent marchent à l'encontre de l'Écriture, le juge. Ce sont de petites choses dont vous parlez, William Dewsbury. Il n'y a rien de petit dans ce que le Seigneur commande, le juge, vous parlez bien, au tribunal. Qu'avez-vous contre ces hommes, William Dewsbury? Voici ce que nous voudrions voir mis au jour, quelle loi avons-nous transgressée? Le juge, produisez ce que vous avez contre eux, et je procéderai selon la loi. Le greffier de la paix, voici des papiers que Dewsbury et Store avaient, et qui sont contre le Lord Protecteur, William Dewsbury. Les papiers qu'ils m'ont pris, et qu'ils disent être contre le Lord Protecteur, c'était la parole du Seigneur que j'étais poussé à écrire, et que je lui ai envoyé en privé avec soin l'un aux 4 mois de l'année dernière, et l'autre lui a été remis aussi en privé avec soin. Et j'ai gardé en privé la copie de ces papiers, jusqu'à ce que je sois appréhendé en vertu d'un mandat délivré par le juge de Pentlow. Et il n'y avait pas de nom sinon celui d'un homme qui l'avait avec mépris traité de Quake, et avec ce mot. Ensuite ils m'ont pris ces papiers, que j'avais sur moi en privé dans un étui à lettres, et qu'ils publient ici publiquement comme une preuve contre moi. Le juge lisait le papier, quand une partie en eût été lue. Ce papier ne doit pas être publié, William Dewsbury, ce n'est pas mon intention qu'il soit publié. L'esprit de vérité qui les a inspirés les a adressés en privé aux mains du Lord Protecteur, le juge. Comment osez-vous lui écrire dans un langage si élevé, comme venant de l'esprit du Seigneur, William Dewsbury? Ceux en qui est l'esprit du Seigneur écrivent selon l'esprit, et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, le juge. Mais je crains que cela ne vienne pas de l'esprit, car beaucoup se prétendent inspirés par l'esprit, et la lumière divine, et les révélations. Mais comment saurons-nous quelles sont la vérité selon les Écritures, William Dewsbury? Les Écritures ne peuvent être connues que par la pure lumière divine du Christ, qui éclaire tout homme venant au monde. De cette pure lumière, le Christ a donné à chacun une mesure, afin d'éprouver les esprits en lui, s'ils sont de Dieu ou non. Tout esprit qui confesse le Christ venu en chair est de Dieu, mais celui qui nie le Christ venu en chair est l'esprit de l'Antéchrist. Et c'est cette lumière qui a produit les Écritures, laquelle lumière conduit au Christ, qui révèle le Père à l'âme qui consent à être guidée par lui. Ainsi l'âme vient à connaître Dieu par la révélation de Jésus-Christ, par lequel ils sont reconnus, ceux qui marchent dans l'Esprit à leurs fruits, dans toutes leurs paroles et leurs œuvres. Et le prophète Amos, qui avait l'Esprit du Seigneur et qui, par l'Esprit, déclara la parole du Seigneur au roi d'Israël, le peuple ne pouvait supporter ses paroles, le juge. Vous parlez bien, si vous faites comme vous dites, mais cela, peut-être, sera attendu, et je pense qu'il serait équitable de fournir caution pour votre comparution aux prochaines assises, William Dewsbury. Faites d'abord connaître quelle loi nous avons transgressée, avant qu'on exige une caution. Après cela, les prisonniers furent mis à l'écart, et le juge passa à d'autres affaires. Mais le soir, quand la cour allait se séparer, le geôlier demanda au juge ce qu'il devait faire de ces hommes du Yorkshire. Le juge amenait-les devant la cour, ce qui fut fait. Puis certains dans la cour dirent, ôtez-leur leur chapeau, et deux de leurs chapeaux furent ôtés, et comme ils allaient ôter celui de William Dewsbury, le juge dit, qu'ils le gardent, et il leur ordonna de remettre les chapeaux des deux autres, ce qui fut fait sur son ordre. Il s'adressa ensuite à William Dewsbury, le juge. Maintenant je vois ce que vous êtes, et votre déguisement et vos belles paroles de façade sont dévoilées, et vous n'êtes pas l'homme que vous prétendez être, William Dewsbury. Je nie déguisement et formalité, mais je reconnais et rends témoignage de la puissance de Dieu, dans laquelle je me tiens et à laquelle je suis soumis, ainsi qu'à l'ordonnance de l'homme par conscience, le juge. Maintenant c'est un ordre, ôtez votre chapeau, William Dewsbury. L'honneur n'est pas à ôter son chapeau, mais à obéir au juste commandement de Dieu, et mon chapeau n'offense personne, mais ceux qui l'offensent peuvent l'ôter, je ne leur résisterai pas. Mais il n'y a aucune écriture qui exprime qu'il y ait de l'honneur à ôter son chapeau, le juge. Quoi, ne devons-nous rien faire pour nos vêtements, rien mettre, sinon ce qui est exprimé dans l'Écriture, William Dewsbury. Oui, l'Écriture dit, que votre parure soit un habillement modeste, le juge. Êtes-vous juge, vous qui restez le chapeau sur la tête et ne voulez pas l'ôter, comme font les autres prisonniers, William Dewsbury. Ce que je fais, Dieu en est témoin, je ne le fais par mépris pour personne, mais en obéissance à la puissance de Dieu, par conscience, le juge. Si vous ne voulez pas vous tenir comme des prisonniers, je ne ferai rien vous concernant, mais je vous ai trouvé ici, et c'est ici que je vous laisserai. William Dewsbury. Voilà plus de 10 semaines que nous sommes dans la geôle basse, et aucune infraction à une loi n'a été trouvée contre nous, et nous nous tenons soumis à la puissance de Dieu, à ce qu'il vous permet de faire de nous. Jusqu'ici, en ce qui concerne le présent interrogatoire de William Dewsbury. Le 12 du même mois, les juges Windham et Hall siégeant ensemble au banc, ils firent appeler les prisonniers Dewsbury, Storr et Williamson. Le juge Windham, ôtez-leur leur chapeau. Le juge Hall, lisez les preuves contre eux. Ce qui fut fait comme précédemment. Qu'avez-vous à dire? Avez-vous prononcé ces paroles? William Dewsbury raconta alors sa rencontre avec le prêtre Andrews et les circonstances qui conduisirent au trouble sur la place du marché à Wellingborough, affirmant que la rupture de la paix et le tumulte avaient été causés par ses accusateurs et non par lui. L'examen se poursuivit ensuite. Windham. Dewsbury, vous êtes bien connu dans le Nord et dans le Yorkshire, là j'ai entendu parler de vous, mais où êtes-vous né? William Dewsbury. Ma naissance naturelle a eu lieu dans le Yorkshire. Le juge W. Commencez-vous à débiter des sornettes? Y a-t-il une autre naissance? William Dewsbury. Oui, si vous n'êtes régénéré et né de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Cette naissance, j'en rends témoignage. Le juge W. En quel lieu du Yorkshire êtes-vous né? William Dewsbury. Ma naissance naturelle fut dans une ville appelée Allesop, à 9 milles de York, en direction de Hull. Le juge W. Où avez-vous passé votre temps? William Dewsbury. Quand j'eus 13 ans, je fus mis en apprentissage chez un fabricant de draps dans l'ouest du Yorkshire, dans une ville appelée Oldbeck, près de Leeds. Le juge W. Avez-vous accompli votre temps d'apprentissage, William Dewsbury? Je suis resté jusqu'à ce que le terme fût presque expiré, puis les guerres commencèrent dans cette nation, et j'entrai au service du Parlement. Le juge W. Reniez-vous tous les principes papistes, William Dewsbury? Je renie les principes papistes et tous les principes contraires à la pure doctrine de la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Le juge W. Reconnaissez-vous les Écritures comme une règle de conduite, William Dewsbury? Je reconnais les Écritures et la pure lumière et la puissance de Jésus-Christ qui les a produites pour guider une conduite sainte selon l'Écriture, et celui qui marche à l'encontre en est condamné. Le juge W. Ne pouviez-vous pas rester dans votre pays et garder vos opinions pour vous? Fallait-il que vous parcouriez la campagne et ses contrées pour tromper le peuple et provoquer du trouble? William Dewsbury. Je n'y trompais. Je voudrais que vous rendiez manifeste ce qu'est la tromperie. Mais je rends témoignage à la vérité, et les choses que j'ai entendues et vues, je suis envoyé pour les déclarer, ce qui ne trouble la paix de personne, sinon de ceux qui ne marchent pas dans la vérité, dont la paix doit être troublée et ôtée. Le juge W. Mais si vous et Fox aviez le pouvoir, vous auriez vite les mains trempées dans le sang. William Dewsbury. Ce n'est pas le cas. L'esprit de vérité, dont nous rendons témoignage en nous est pacifique, il ne fait pas violence et ne répand pas le sang, et tous ceux qui sont guidés par l'esprit de vérité, la lumière et la puissance du Christ, ont les mains liées pour ne pas faire violence ni verser le sang. J. Storr. Il est bien connu, dans cette nation où leurs souffrances et les lapidations, et ils ne lèvent jamais la main contre personne. Le juge W. C'est parce que vous n'avez pas le pouvoir, mais voici des preuves contre vous pour rupture de la paix. Donnerez-vous caution pour votre comparution aux prochaines assises, William Dewsbury. C'est la liberté de la loi de cette nation, que tous ceux qui professent la foi de Jésus-Christ puissent marcher avec droiture selon leur foi en lui, sans enfreindre les lois. Et je demande qu'une loi nous soit lue, celle dont les preuves apportées contre nous constituent l'infraction, afin que, par la loi, nous puissions être convaincus de l'avoir transgressée, avant qu'on puisse exiger de nous une caution. Le juge W. Nous sommes juges, et nous estimons et jugeons que ce qui est porté contre vous constitue un motif suffisant pour exiger de vous une caution, pour votre comparution aux assises. William Dewsbury. Bien que vous soyez juge, vous êtes juge d'une loi, et vous devez juger selon la loi, qui est votre règle, et c'est cette loi que je voudrais que vous nous lisiez, et si nous l'avons transgressée, jugez-nous selon elle. Le juge W. Vous transgressez la loi, en ce que vous n'êtes pas soumis au gouvernement et à l'autorité, puisque vous n'ôtez pas vos chapeaux. William Dewsbury. Nous sommes soumis au gouvernement et à la puissance de Dieu, et à l'ordonnance de l'homme par conscience, mais montrez-nous dans l'Écriture, qui est un vrai témoignage de la puissance de Dieu dans laquelle nous nous tenons, que que l'on doit ôter son chapeau comme marque de soumission à l'autorité, et lisez-nous une loi nationale, qui est l'ordonnance de l'homme, exigeant une telle chose. Le juge W. C'est la pratique et la coutume de la nation. William Dewsbury. Les coutumes des païens sont vaines. Le juge Hall. D'après les preuves qui ont été lues, nous attendons une caution pour votre comparution, comme cela a été exigé aux prochaines assises. William Dewsbury. Nous n'avons transgressé aucune loi. Si vous connaissez une infraction à une loi de notre part, qu'elle soit lue, afin que nous en connaissions le fondement, pourquoi la caution est exigée, et à quoi nous devons répondre aux prochaines assises. Le juge H. Qu'en dites-vous, Store? Vous engagerez-vous par caution à comparaître aux prochaines assises, Store? Où sont ceux qui ont témoigné contre moi, afin que je puisse répondre aux détails des choses dont on m'accuse? Le juge H. Si vous donnez caution pour votre comparution aux assises, alors ceux qui vous ont dénoncé comparaîtront face à face, Store. Nous sommes liés par un lien plus fort que toute caution extérieure. Le juge H. Qu'en dites-vous, Williamson? Vous engagerez-vous par caution à comparaître aux prochaines assises? Williamson, je ne me comporte pas mal, mais je suis tenu à une bonne conduite par la puissance de Dieu. Le juge H. Si vous ne fournissez pas de caution, vous devrez rester ici jusqu'aux prochaines assises. Surveillez-les, geôliers. Ils furent en conséquence reconduits à la prison et y furent détenus 11 semaines dans la salle geôle basse comme auparavant, parmi des criminels, jusqu'à une autre session d'assises. Entre-temps, plusieurs autres de leurs amis furent emprisonnés. Bien qu'il soit difficile, sinon impossible, de concilier un tel résultat avec les principes d'une justice simple et droite, il convient, à l'égard des juges et des autres détenteurs de l'autorité en ces temps troublés, et en particulier quant au caractère du juge Hall, de remarquer que les amis alors n'étaient pas aussi bien compris qu'ils l'ont été depuis. Ce fut en fait l'un de ces cas où l'on fit preuve de trop peu de discernement et où les innocents furent ainsi amenés à souffrir avec et pour les coupables. Car bien que ce fût alors, comme cela l'a toujours été, un principe religieux parmi les amis de ne pas s'immiscer dans les questions politiques, ni de se mêler, en partisans, aux agitations du temps touchant les choses temporelles, pourtant leur censure libre et sans compromis de nombreux principes, autant que des pratiques du jour, rendait difficile aux observateurs superficiels ou prévenus de distinguer leur dessein de celui d'autres catégories d'agitateurs. Et lorsqu'on se souvient que, durant l'état instable du gouvernement, tant avant qu'après le protectorat, les principes des amis concernant le ministère national, tant quant à sa nomination qu'à son entretien, frappait à la racine même de l'union de l'Église et de l'État, il ne fait aucun doute que beaucoup crurent avoir des motifs sérieux et suffisants pour conclure que les vues de cette société étaient défavorables au gouvernement lui-même. Cela, toutefois, ne pouvait jamais justifier les nombreuses procédures injustes et arbitraires sous lesquelles, comme dans le présent cas, on les fit souffrir. Cela illustrera encore davantage le fait que le procès précédent a assez clairement mis en lumière à savoir qu'à cette époque, on nourrissait à l'égard des amis des craintes considérables d'ordre politique, si l'on informe le lecteur que, tandis que ces affaires se traitaient à Northampton, George Fox n'était pas moins une cause d'appréhension dans le Leicestershire. Car comme il s'apprêtait à tenir une réunion à Whetstone, près de Leicester, le colonel Acker, qui plus tard, comme l'un des juges du roi Charles, fut exécuté à Tyburn, envoya une troupe de cavalerie pour s'emparer de lui, soupçonné de participer à un complot alors en gestation contre Cromwell. Au cours de l'interrogatoire qui suivit, Needham, gendre de Acker, dit à son beau-père, au sujet de Fox, qu'il avait régné trop longtemps et qu'il était temps de l'éliminer. George Fox, ayant protesté contre une conclusion si surprenante et déclaré son innocence, Acker lui demanda s'il voulait rentrer chez lui et y rester. Mais, refusant de s'engager à faire une chose ou à s'abstenir d'une autre, Acker dit « Alors je vous enverrai demain matin à mon lord protecteur, par le capitaine Drury, l'un de ses gardes du corps. » Ce qui suit n'est pas moins intéressant que remarquable. Le lendemain matin, lorsque George Fox fut remis au capitaine Drury, il demanda à parler au colonel avant de partir, cela lui fut accordé, et on le conduisit au chevet de son lit. Acker lui dit de rentrer chez lui et de ne plus tenir de réunion, ce que j'ai. Fox refusa de faire, alors il dit, « Vous devez donc paraître devant le protecteur. » Sur quoi George s'agenouilla au chevet de son lit et pria le Seigneur de lui pardonner, car il considérait le cas du colonel comme semblable à celui de Pilate, qui voulait se laver les mains de la culpabilité de la mesure à laquelle les prêtres l'avaient poussé. Et par conséquent, George Fox lui dit encore de se souvenir de ce qu'il lui disait alors, quand viendrait sur lui le jour de sa misère et de son épreuve, jour peu anticipé par Needham, lorsqu'il fit à son beau-père l'observation susmentionnée au sujet de la carrière de G. Fox. Ce n'est nullement un cas isolé de la préscience de George Fox d'où qu'elle provint. Le capitaine Drury, quoiqu'homme de conduite légère et porté à railler George Fox et les amis, se conduisit néanmoins avec assez de courtoisie envers son prisonnier pour lui permettre de rendre visite à William Dewsbury dans la prison de Northampton lorsqu'il passa par cette ville. L'insertion, à la fin de ce chapitre, de parties de deux lettres originales de William Dewsbury, outre qu'elle apporte des informations supplémentaires sur lui et ses collègues, peut contribuer à illustrer les sentiments précédents de notre auteur, relatifs à l'alarme qui, à ce moment, s'empara assurément de l'esprit du peuple en général, mais surtout de certaines classes, dont le système ecclésiastique semblait menacé par la rapide diffusion des amis et de leurs principes à travers le pays. Ces lettres sont datées de la prison commune de Northampton, le 3 jour du 7 mois et le 15 jour du 8 mois 1655. Il semble que souvent, lorsque leurs persécuteurs avaient envoyé les amis en prison, ils trouvaient Jérusalem si pesante pierre, comme l'exprime Dewsbury, qu'ils ne pouvaient aisément la rejeter, tendance qu'il décrit comme les réduisant en poudre. Ils trouvèrent et sentirent qu'ils avaient fait du tort à ces gens opprimés, et savoir comment se délivrer de leur proie, et sauver aussi leur propre réputation, n'était parfois pas chose facile. Les amis ne craignaient le visage d'aucun homme et ne pouvaient être amenés à se courber devant les volontés corrompues de quiconque, qu'il s'agît de magistrats ou d'autres. Ils demeuraient fidèles à leur témoignage lorsqu'ils estimaient devoir le porter, en quelque occasion particulière, ou d'une manière particulière pour le Seigneur et sa vérité, contre la tromperie et l'oppression de l'homme envers l'homme dans les choses de Dieu. Ils ne pouvaient ni faire des concessions injustes ni de bas compromis, ni souscrire d'engagement, ni payer amende ou frais, pour faire ce qu'ils considéraient comme leur devoir, mais ils étaient toujours disposés à souffrir volontiers et avec joie pour ce que rien de moins que ce sens du devoir n'aurait pu les amener à faire. Il ressort de l'une de ces lettres que les juges de paix se servaient du geôlier pour voir s'ils pouvaient arracher des paroles à l'un des prisonniers, qui pussent être interprétées comme s'ils acceptaient de s'engager par caution à une bonne conduite, et laissaient entendre qu'ils seraient alors aussitôt remis en liberté. Mais le geôlier, bien qu'il rencontrât souvent d'autres prisonniers, ne pouvait supporter l'œil perçant et la vertu élevée de William Dewsbury, cherchant souvent à l'éviter, il allait jusqu'à fuir lorsqu'il le voyait s'approcher, plutôt que de l'affronter, et parfois Dewsbury ne le voyait pas pendant plus d'une semaine. Il en allait de même pour la personne qui, périodiquement, officiait comme ministre parmi les prisonniers, car Dewsbury avait protesté contre lui et sa doctrine, après qu'il eut prononcé son discours, alors, comme il le raconte, la crainte surprit l'hypocrite de sorte qu'il se tint tremblant et ne put répondre un mot. À la suite de cela, les juges de paix déclarèrent effectivement en séance publique que le ministre n'osait plus venir prêcher, à moins qu'on ne prît quelques mesures contre ces Quakers. Ainsi, l'on donna l'ordre de les enfermer dans le cachot, ce qui fut fait ensuite à chaque fois pendant l'heure du prêche. Dewsbury ajoute, « La crainte de notre Dieu est sur eux, leur cœur leur manque, et leur tourment augmente chaque jour de voir l'œuvre du Seigneur prospérer, qui avance avec une puissance grande dans toutes ses contrées et dans toute la nation. Les amis grandissent dans la puissance de notre Dieu. Ils viennent de Londres et de nombreux lieux de tous côtés pour nous visiter, bien qu'ils entendent dire qu'on ne peut leur permettre de nous approcher, et la sagesse de notre Dieu s'y manifeste beaucoup, lui qui, avec patience, les maintient avec hardiesse à s'asseoir à la porte de la prison, pour un témoignage contre eux, ce qui ajoute beaucoup à leur tourment. Le geôlier les menace, et certains, ordonnés par le Seigneur, vont vers les juges de paix pour témoigner contre leur méchanceté, et chacun voudrait s'en décharger et nier ce qu'il a fait. Nous avons extérieurement tout ce dont nous avons besoin. Trois enchaînés avec moi se suffisent à eux-mêmes, deux frères, appelés Marmaduke et Joseph Storr, et un certain Francis Ellington, dont le métier est tapissier, et Thomas Gauder est dans la prison de la ville et se suffit à lui-même. Je n'ai pas été libre de recevoir ici de l'argent des amis pour mes besoins, ce qui a beaucoup confondu mes adversaires, que ma vie soit donnée pour le bien de leurs âmes, et non pour recevoir de l'argent afin de pourvoir à mes nécessités, mais en certains endroits, j'ai payé ce dont j'avais besoin, là où ils n'en avaient pas les moyens au dehors. Quant à certains qui avaient des richesses extérieures, mais avaient des parents qui disaient qu'ils seraient ruinés en me recevant, et que leur commerce échouerait dans le monde, contre leur volonté, le Seigneur m'a ordonné de les payer intégralement pour ce que j'avais pris, afin que l'Évangile ne soit pas à charge. Je suis pourvu en tout temps de ce dont j'ai besoin, et ainsi le seront ma femme et mes enfants, selon la parole du Seigneur, qui me fut scellée il y a 8 ou 9 ans, lorsqu'une maison et des terrains de jardin me furent enlevés par cet esprit persécuteur, qui alors ne voulut pas me laisser bénéficier de la loi, mais me traita d'hérétique, et dit qu'on ne devait pas me permettre d'avoir une existence extérieure dans cette nation. Thomas Gauder fut maintenu dans la puissance et la sagesse de notre Dieu, le jour où il fut amené devant les gouvernants de cette ville, pour un témoignage contre eux. Thomas Stubb rend de grands services, et il est précieusement conduit dans la vie. Richard Farnsworth s'est élevé parmi ses amis en ces contrées, Le Seigneur a pour lui de grands services parmi eux. Il y a une grande conviction sur beaucoup de gens en ces contrées et une grande soif partout où de tels amis passent de tous côtés. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers fidèles dans sa moisson. La dernière de ces communications, avec quelques omissions, se présente ainsi. Ma chère sœur, notre Père a couvert de honte le visage de ses ennemis en ces contrées, et a exalté son Fils au-dessus de toutes leurs têtes. Il tremble devant sa puissance dans ses seins, et notre Dieu les a disposés en pure sagesse. Il en pousse beaucoup à venir nous visiter. Le capitaine Bradford, comme il montait à Londres, fut autorisé à loger dans la ville, et il vint à la porte de la prison, pour voir s'il pouvait venir nous rendre visite en prison. Le geôlier fut d'abord très rétif, mais étant quelque peu effrayé, il lui demanda s'il avait quelque commandement dans l'armée. Il lui répondit « Ce que j'ai, cela n'importe pas en cette affaire, car je te déclare ceci, quel que soit le commandement que j'ai dans l'armée, mon épée n'ouvrira pas les portes de la prison, et si tu ne les ouvres pas, je n'entrerai pas. » Dans la douceur et la patience, il demeura là jusqu'à ce que le Seigneur commande à l'esprit du geôlier de le laisser entrer, et il fut conduit dans la ville avec une sagesse précieuse, ce qui les confondit grandement. La plupart du temps qu'il resta, il fut avec nous, et la prison fut la plupart du temps pleine d'officiers et de soldats. Environ 17 semaines avant cela, peu étaient autorisés à venir nous visiter, bien que certains vinssent d'environ 100 000. Vers la semaine suivant le départ du capitaine Bradford, ce furent les sessions générales, et plusieurs amis de Bristol vinrent, avec notre cher frère John Audelan, et quelques-uns de Londres, et le juge de paix Crook, et certains autres du voisinage, qui, dans la puissance de l'Esprit de notre Dieu, marchait sur la tête de ceux qui le persécutent dans ses enfants, de sorte qu'ils tremblaient devant la présence du Très-Haut en eux. Et deux jeunes hommes qui sont enchaînés, et qui furent amenés devant les hommes siégeant aux sessions, le Seigneur manifesta sa puissance en eux, de sorte que ceux qu'on appelle juges de paix furent confondus devant tout le peuple, mais le temps de leur délivrance hors des liens n'était pas encore venu. Il y a ici certains cœurs précieux, qui ont vécu dans de grands plaisirs et honneurs dans le monde, et qui maintenant les déposent volontairement aux pieds de Jésus, je suis poussé à exposer leur cas devant toi, afin que tu leur écrives. La femme du juge de paix Crook est précieuse dans sa mesure, et beaucoup de servantes du Seigneur sont très belles dans la puissance de notre Dieu, qui conduit son œuvre en tout lieu où il envoie ses enfants. William Dewsbury, chapitre 1655. Épître à Assise, prisonnier jugé devant le juge Atkin, refuse d'entrer dans des engagements renvoyés en prison détenu 6 mois. Pendant l'incarcération de William Dewsbury dans la prison de Northampton, il ne passa pas son temps dans l'oisiveté, car outre plusieurs écrits adaptés à cette période particulière, qu'il rédigea pour le progrès de la cause qu'il avait si ardemment embrassée, il adressa aussi des épîtres en diverses directions pour l'édification de l'Église, et pour suppléer à l'absence de ses travaux personnels, en publiant largement la vérité à ceux qui étaient préparés à la recevoir. Il est maintenant mon intention de présenter au lecteur la totalité de l'une et des extraits d'une autre de ces épîtres. Commentaire de l'éditeur du site. L'extrait suivant, tiré des lettres de Dewsbury, est un écrit des plus remarquables, décrivant l'action de l'Esprit pour enseigner, convaincre et conduire au salut, dans l'attente du Seigneur en silence. Il relate notamment le processus dans un langage scripturaire précis. Vous tous qui désirez connaître le Dieu vivant, que le temps passé vous suffise, durant lequel vous avez suivi des hommes qui vous ont trompé, et cessez de les suivre. Et tournez-vous vers le vrai prophète que Moïse, serviteur du Seigneur, a annoncé. Le Seigneur Dieu le susciterait de 18-15 son serviteur élu et choisi pour relever la tribu de Jacob et restaurer les préservés d'Israël, lui qu'il a aussi donné pour lumière aux nations et pour être son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qu'Ésaïe le prophète a aussi annoncé. Le Seigneur le susciterait pour ouvrir la source de vie et de salut à tous ceux qui ont soif, Isa 55:1-3, et dont rendent maintenant témoignage tous ceux qui écoutent son conseil, lui qui appelle. À quiconque a soif, venez aux eaux, et celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, oui, achetez du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte en abondance, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et vos âmes vivront, et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces sûres accordées à David. Tous, ne regardez plus au dehors, la bonne nouvelle de l'évangile du salut éternel s'entend au-dedans, en ce jour des miséricordes du Seigneur, où il enseigne lui-même son peuple, comme l'a déclaré le prophète Ésaïe 54:13, et comment rendent maintenant témoignage tous les enfants de la lumière, dont l'esprit est tourné au-dedans pour attendre du Seigneur son enseignement, afin de les établir dans l'alliance de vie et de paix, lui qui accomplit sa promesse, qu'il a déclarée par son serviteur le prophète Jérémie à tous ceux qu'il a. Ainsi que chacun de vous qui désire connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé tourne son esprit au-dedans, et examine son cœur, scrute et éprouve ses voies à la lumière par laquelle le Christ Jésus vous a éclairé, celle qui vous montre dans vos cœurs ce qu'est le péché. Que l'orgueil et l'avarice, le mensonge et le juron, la dissimulation et la tromperie, les propos vains et oiseux, les plaisanteries folles et l'incrédulité sont des péchés. Vous savez que ces choses sont des péchés dans votre propre conscience, par la juste loi de Dieu dans le cœur, qui vous reprend pour elles en secret. Voilà votre Maître, l'Esprit du Seigneur au-dedans de vous. Quand ce jour puissant de sa puissance, il répand sur toute chair, selon sa promesse déclarée par le prophète Joël 2:28-29, et dont rendent maintenant témoignage ses fils et ses filles, qui marchent dans la lumière, et sont conduits et guidés par son esprit au-dedans d'eux, lequel garde la conscience sans offense envers Dieu et envers l'homme. Goûtez chacun avec diligence le conseil du Seigneur, la lumière qui rend témoignage pour Dieu dans la conscience. Abandonnez-vous à être guidés par elle, alors vous n'aurez plus besoin d'être enseigné par les hommes, et votre maître ne sera plus relégué dans un coin, mais votre œil verra votre maître. Et votre oreille entendra une voix derrière vous disant « Voici le chemin, marchez-y » quand vous vous tournerez à droite ou à gauche, comme l'a déclaré le prophète Ésaïe 30:21, et dont il est maintenant rendu témoin. Tous ceux en qui de tels désirs sont éveillés, attendez dans la lumière et la puissance au-dedans, qui a suscité ces désirs, et le Seigneur vous fortifiera alors, et vous donnera la puissance de l'attendre dans la voie de ses jugements, jusqu'à ce que l'esprit charnel, terrestre, sensuel, qui vous a conduit à vous complaire dans les convoitises et les plaisirs, et dans les jouissances créées au-dessous de Dieu soit abattu et mis à mort par la parole de Dieu au-dedans, qui est une épée aiguë à deux tranchants pour abattre le premier homme qui est de la terre, terrestre. La sentence de mort sera prononcée contre le premier homme qui vous a éloigné de Dieu, et contre toute la force, la sagesse et la justice que vous aviez en lui. Et dans la puissance de l'esprit, vous serez amené dans le vrai sentiment de la pauvreté de votre esprit, à avoir faim et soif de la justice de Dieu en Jésus-Christ, à l'estimer et l'aimer, et à juger et renier le moi par sa lumière, et en elle, à attendre sa puissance pour vous guider dans chaque parole et chaque œuvre. William Dewsbury, la lettre de conseil suivante, adressée à une personne d'un certain rang, le juge Fell, de Swarthmore, l'éditeur se permet de l'intercaler entre ces deux textes. Elle est copiée sur l'original, au juge Fell. De la prison commune de Northampton, c'est e jour du 3e mois, 1655 amis, ce qui appelle à la pureté en toi mes chers, et j'en souffre avec toi, car cela gémit souvent secrètement en toi pour être délivré. Et tandis que tu prêtes l'oreille au pur conseil de la Sainte Semence, tu es presque persuadé de déposer ta couronne dans la poussière aux pieds de Christ, qui est le roi et le juge de Sion, et de le suivre chaque jour dans la croix, afin que tu parviennes à la couronne que tes yeux voient en mesure, comme étant donnée à tous ceux qui sont fidèles à marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu, en ce qu'il rend manifeste. Tu serais béni, si tu demeurais fidèle dans le pur conseil du Saint Dieu, il te persuaderait entièrement par sa puissance sans limite, et te guiderait avec hardiesse à te renier toi-même, ainsi que les volontés de tous les hommes du monde. C'est à la pure lumière de Christ dans ta conscience que je parle, laquelle me rendra témoignage. Tu en détournes ton oreille, et tu es livré à l'ennemi de ta paix, qui t'entraîne dans des consultations avec la chair et le sang, lesquelles te présentent la voie de la vérité comme dure et étroite à parcourir, de sorte que tu n'es pas capable d'y marcher fidèlement selon ce qui t'est manifeste. En prêtant l'oreille à cet esprit menteur, il pousse ton esprit à chercher du soulagement dans les choses visibles dont le Seigneur t'a fait l'intendant, afin d'abandonner les miséricordes vivantes que le Seigneur Dieu du ciel et de la terre a manifestées à ses enfants fidèles dans ta famille et ailleurs, qui se tiennent dans son conseil. Dans de tendres entrailles d'amour pour ton âme, son bras est étendu pour t'embrasser dans son libre pacte de vie en Christ. Si tu inclines diligemment ton oreille à son conseil, la lumière, et si tu attends sa puissance pour te guider dans une obéissance parfaite à la mesure reçue, alors ton talent augmenterait chaque jour, et la victoire serait attestée sur la puissance du prince de ce monde, pour lui fouler la tête dans la puissance de Christ. Alors la sagesse du Père te serait donnée dans l'état et la condition où il t'a placé. Ah. Cher ami, puisque tu as à cœur la gloire du Dieu vivant et le bien de ton âme, et puisque tu devras lui répondre éternellement, ne méprise pas le jour de ta visitation, car l'Esprit du Seigneur ne contestera pas toujours avec toi. Sois attentif au moindre mouvement de l'Esprit de Christ, d'où vient la lumière. En elle, attends avec hardiesse que Christ te guide dans toutes tes voies, dans une obéissance fidèle à la volonté de Dieu. Que sa puissance éternelle te soumette au Christ en toi pour régner, à la louange et à la gloire du Père des Lumières, Dieu au-dessus de tous, béni à jamais. C'est dans un tendre amour pour ton âme que je t'écris, moi qui suis souvent avec toi en esprit, moi qui suis connu de nom, William Dewsbury. L'autre épître porte des preuves internes d'avoir été adressée exclusivement aux membres de la société nouvellement rassemblés. Si son dessein est d'une part d'encourager et d'affermir les cœurs simples et fidèles, bien qu'il y ait parmi des faibles du troupeau, d'autre part, le langage du reproche est librement employé envers ceux qui, par précipitation, impatience ou manque de vigilance, risquaient de se nuire à eux-mêmes, et par là d'introduire le corps dans la souffrance, et de jeter du discrédit sur la cause elle-même. Elle est de la plume, non d'un homme savant, mais d'un chrétien expérimenté. Chers amis serviteurs et enfants du Dieu Très-Haut, qu'il a appelés et choisis hors du monde, soyez tous fidèles dans son conseil. Attendez sa puissance pour vous guider dans toutes vos pensées, paroles et œuvres, dans sa pure crainte et dans l'obéissance à sa volonté. Je vous en charge en sa présence, soyez vaillants pour votre liberté, en demeurant dans la puissance du Dieu vivant, afin qu'il vous arme contre les traits enflammés du diable, pour lui résister dans ses apparitions et toutes ses ruses, lui qui rôde comme un lion rugissant pour vous attirer de toute manière, cherchant à détourner vos esprits de ce qui est pur vers les choses visibles, afin d'y captiver vos affections, de satisfaire vos volontés dans des objets créés et périssables, ou dans la connaissance de la vérité selon la sagesse charnelle. Ceux-là paissent avec les pourceaux d'Écosse, la forme et l'image de ce que vous avez goûté, ou de ce que vous voyez dans la vision sans en jouir dans la possession, et parlent, dans un esprit d'ivresse, des paroles sans connaissance. Avec eux siège une bête peinte, la volonté en liberté hors de la croix. Vous dont l'état est celui-là, vous êtes la Vierge folle, détournée de la pure sagesse de Dieu, de la lumière de Christ qui vous a convaincu de péché. Et maintenant vous paraissez dans une formalité extérieure, aux yeux des hommes, avec une lampe comme les vierges sages. Mais ne demeurant pas dans la puissance de Dieu, vous manquez de l'huile de joie et d'allégresse dans la puissance de son amour. Les vierges sages ont cela dans leur lampe, ce qui exerce leur conscience et maintient toute leur affection en ordre vers l'esprit de vérité, qui bride leur langue afin qu'elles ne prononcent pas des paroles devant le Seigneur, mais qu'elles attendent en un vrai silence devant lui, jusqu'à ce que son esprit les meuve à déclarer sa pensée, depuis la puissance vivante que l'âme possède et goûte en Christ, l'époux des vierges sages. Lui, par sa puissance, maintient la lampe de son épouse bien apprêtée, l'épouse de l'agneau, elle respirant toujours et ayant soif qu'il manifeste sa puissance pour ôter le péché et renouveler l'image de Dieu. Et en Christ Jésus, la vie de l'âme, pour voir l'homme parfait régner en elle pour toujours. Vous qui avez faim et soif de justice, vous êtes bien-aimés, car vous êtes les enfants du royaume de mon Père. Ma vie est liée à la vôtre, et pour vous, voici la parole du Seigneur, ne craignez pas, levez la tête et attendez dans la lumière avec hardiesse. En elle, levez les yeux vers Christ, votre roi. Il paraîtra comme l'éclair de l'Orient à l'Occident, et vous le verrez soumettre à lui votre nature indomptée. Il guérira vos infirmités et rassasiera vos âmes altérées, et vous donnera l'aboutissement de votre espérance, le salut de vos âmes. Vous vous assiérez avec lui dans le royaume du Père, pour vous réjouir dans la puissance de l'amour et de la vie éternelle, qui sont en sa présence au siècle des siècles, et c'est là le pain des enfants qui descend du ciel. Mais vous, vierge folle, qui vous asseyez dans la forme extérieure et la profession de la vérité, vos lampes sont vides de la puissance de Dieu, laquelle devrait abattre vos volontés et les maintenir dans la croix quotidienne. Ainsi vous êtes possédé d'un esprit lourd, abruti, somnolent, terrestre, insouciant, qui se lasse d'attendre le Seigneur en silence. Vous n'avez point d'huile dans vos lampes. Vous vous êtes détourné de la lumière qui vous conduirait à la puissance de Dieu, laquelle conserverait la vraie soif pour attendre le rafraîchissement qui est en sa présence. Ainsi, tandis que vous êtes assis dans une réunion silencieuse parmi les vierges sages, qui se nourrissent du pain immortel descendu du ciel, la chair et le sang de Jésus, vous êtes emprisonné et affamé faute de nourriture, laquelle fortifie chaque jour celle-ci, les vierges sages dans la puissance de Dieu, et rassemble tout leur cœur en un, là où l'union est dans l'être invisible, dans le silence, se réjouissant ensemble dans le Seigneur. Aux consciences de vous, vierges folles, je parle, vous êtes étrangères à la vie dont jouissent les vierges sages. Bien que vous veniez parmi elles, votre vie consiste à embellir l'extérieur de la lampe par des paroles vite dites, mais la crainte de Dieu n'est pas devant vos yeux, et vos volontés sont hors de la croix. Une fausse joie s'élève en vous, parlant de ce que vous ne possédez pas, vous enorgueillissant et vous glorifiant des lignes d'autres hommes, et contestant pour la vérité avec un esprit qui est hors de la vérité. Ainsi vous devenez comme des arbres avec des feuilles et des fleurs, qui ne portent point de fruits. Ici votre folie est rendue manifeste, tandis que vous parlez aux autres, vous êtes vous-même sous la répréhension, en ce que vous êtes étrangère à la vie de Dieu. Je vous en charge et vous commande, silence à la chair. Ne parlez pas devant le Seigneur, insensé, tandis que l'ouvrier d'iniquité règne en vous, que le Seigneur détruira, à moins que vous ne vous repentiez. C'est pourquoi, tous amis qui faites mention du nom du Dieu vivant, examinez vos cœurs, sondez-les et éprouvez vos voies avec la lumière qui vient de Christ, avec elle, lisez votre état dans le livre de la conscience. Là, vous verrez comment vous vous tenez en la présence du Dieu vivant pur saint. Si vous êtes dans l'état des vierges folles, détournées de la lumière de Christ qui les convainquait de péché, et vous êtes englissé dans la forme de la vérité mais ennemis de la croix, faisant ainsi naufrage de la foi et d'une bonne conscience, ou si vous êtes dans l'état des vierges sages qui aiment la lumière, et y attendent pour demeurer dans la puissance qui châtie cette nature, qui voudrait se détourner de la lumière et souiller vos vêtements. Mais dans la croix quotidienne, vos âmes sont gardées pures et chastes pour suivre l'agneau partout où il va, et vous entrez avec lui dans le repos préparé pour le peuple de Dieu, où les vierges folles n'entreront pas, jusqu'à ce qu'elles, de leur sagesse insensée, reviennent à la vraie obéissance au Père de la lumière. Chers enfants du Seigneur Dieu, soyez vaillants, hardis et fidèles dans vos mesures, afin que, dans la lumière, la vie et la puissance de Dieu, vous puissiez tenir ferme au jour de la grande épreuve que le Seigneur fera venir sur tous ceux qui font mention de son nom. Car puissance sera donnée à la bête pour élever sa corne, jusqu'à l'armée du ciel, pour la purification du sanctuaire du Seigneur. Alors les vierges folles et les bêtes peintes, ennemies de la croix de Christ, qui ont souillé le sanctuaire du Dieu vivant, viendront devant lui parmi ses saints et ses enfants. Du milieu d'eux, ils sortiront, tremblant devant la puissance de la bête, quand elle fait entendre sa voix et commande à tous d'adorer son image. Mais alors vous tous, enfants du Dieu Très-Haut, qu'il a appelé à lui être fidèle, vous vous réjouirez dans sa puissance éternelle, lui qui vous gardera en ce jour-là dans le repos et la paix, dans l'ancien des jours, lui qui siégera pour juger avec justice tous ceux qui s'opposent au lever de sa gloire, et de sa domination il n'y aura point de fin. Amis, rassemblez-vous dans le vrai silence de vos esprits. Attendez dans la lumière l'Esprit illimité du Seigneur, afin qu'il manifeste sa puissance en vous, et qu'il écrase la tête du serpent dans toutes ses apparitions en vous, qu'il mette fin au péché et qu'il introduise une justice éternelle. Afin qu'en lui vous croissiez, dans la pure nature du Dieu très haut au-dessus de tous, béni à jamais, Amen, que Dieu Tout-Puissant vous garde tous fidèles dans sa puissance éternelle en lui-même, pour porter son nom en justice, que son nom soit écrit sur vos fronts, et que tous ceux qui vous voient témoignent que vous êtes la semence juste que le Seigneur a bénie. Que sa puissance éternelle et sa présence vous gardent dans l'unité éternelle de l'Esprit et le lien de la paix, où je suis avec vous dans l'amour et la vie immuable. William Dewsbury, 1655. Je désire que ceci soit lu dans vos réunions, avec une bonne intelligence, dans la crainte du Seigneur. Car voici le jour, je ferai une séparation entre les sages et les insensés, entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au temps des Assises, qui se tinrent le 21 du 5e mois, William Dewsbury fut appelé à la barre, son nom étant associé à pas moins de 6 autres personnes, emprisonnées sous des accusations semblables. Voyant les prisonniers tous debout devant lui, le chapeau sur la tête, le juge, Edward Atkin, après une courte pause, demanda au geôlier si c'était là des prisonniers. Sur réponse affirmative, le juge lui demanda si c'était son usage de conduire des prisonniers devant le tribunal de cette manière, et lui dit qu'il méritait une amende de 10 livres pour les avoir amenés devant la cour la tête couverte. Le geôlier répondit « Si vous me l'ordonnez, j'ôterai leur chapeau ». Cela fait, et s'étant assuré lequel des prisonniers était Dewsbury, car il paraît que, tant alors qu'au procès précédent, sa prédication avait produit une grande sensation dans ces régions du pays où il avait voyagé, l'examen suivant eut lieu. « Juge, pourquoi êtes-vous ici, prisonnier ?» Le mandat d'écrou indiquera pour quelle raison j'ai été incarcéré, mais le gardien de la prison me refuse une copie. « Juge, comment vous appelez-vous, prisonnier, inconnu du monde ?» « Juge, faisons-nous entendre quel est ce nom que le monde ne connaît pas ?» Prisonnier, il est connu dans la lumière, et nul ne peut le connaître sinon celui qui l'a, mais le nom par lequel le monde me connaît est William Dewsbury. Juge, de quel pays êtes-vous, prisonnier? Du pays de Canaan. Juge, c'est bien loin, prisonnier, non c'est proche, car tous ceux qui demeurent en Dieu sont dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Là l'âme est en repos, et jouit de l'amour de Dieu en Christ Jésus, en qui l'union est avec le Père de la lumière. Juge, c'est vrai, mais avez-vous honte de votre pays? Est-ce pour vous une honte que d'être né en Angleterre, prisonnier? Non. Pour l'amour de la vérité, je suis libre de déclarer que, selon la connaissance du monde, ma naissance naturelle fut dans le Yorkshire, à 9 000 de York, en direction de Hull. Juge, vous prétendez être des hommes extraordinaires et avoir une connaissance extraordinaire de Dieu, prisonnier. Nous attestons que l'œuvre de la régénération est une œuvre extraordinaire, accomplie en nous par l'Esprit de Dieu. Juge, mais les apôtres travaillaient de leurs mains dans leur métier, prisonnier. Ils avaient des métiers dans le monde. Certains étaient pêcheurs, Paul faisait des tentes, mais lorsqu'ils furent appelés au ministère de Christ, ils quittèrent leur métier pour suivre Christ, là où il les conduisait par son esprit à prêcher la parole. Et moi aussi j'avais un métier dans le monde comme eux, et j'y suis demeuré jusqu'à ce que le Père révéla son Fils en moi et me retira de mon métier que j'avais dans le monde, pour prêcher la parole éternelle qu'il m'avait fait connaître, dans la grande œuvre de la régénération. Juge, pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre propre pays, et n'avez-vous pas enseigné les gens dans ses limites, prisonnier? J'y suis resté jusqu'à ce que je sois appelé à partir de là pour aller, où j'étais conduit par l'Esprit du Seigneur. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils et les filles de Dieu, et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Juge, vous parlez bien, car nous devons, par charité, conclure que chacun dans ce lieu a l'Esprit de Dieu en lui, mais comment savez-vous que vous êtes guidés par l'Esprit de Dieu, prisonniers? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu se reconnaissent à leurs fruits, et celui qui croit en Jésus-Christ et est guidé par son Esprit a le témoignage en lui-même, juge. C'est vrai, toutefois, à voir votre conduite, je comprends que ce que mon frère Al fit aux dernières assises, en exigeant des cautions pour votre bonne conduite, il pouvait à bon droit le faire, car vous êtes contre les magistrats et les ministres, prisonniers, montrez-nous où nous sommes contre eux, juge. À Robert Gray, greffier de la paix, qu'avez-vous contre ces hommes, Gray? Voici une déposition, faite sous serment par M. Robert Beaton, selon laquelle William Dewsbury, le 29 décembre 1654, entra dans l'église de Wellingbury et se tint debout, chapeau sur la tête, pendant le sermon et la prière. Et après que le ministre eut fini, il prononça ces mots, « Les prêtres prêchent pour un salaire et le peuple aime qu'il en soit ainsi, mais que ferez-vous à la fin ?» Avec d'autres paroles injurieuses, qui causèrent du trouble parmi le peuple. Le juge s'apprêtait alors à examiner quelques-uns des autres prisonniers, après avoir d'abord menacé de ce qu'il ferait, avant de quitter la ville, contre ce qui troublait les ministres, lorsque William Dewsbury dit « C'est la liberté de la loi de cette nation, que tout homme amené prisonnier devant ce qui siège pour juger sa cause puisse parler pour lui-même, afin d'attester la vérité contre les fausses informations déposées contre lui, et je prends cette liberté pour manifester le motif et la cause de mon entrée dans la maison à clef. » Il raconta ensuite comment le prêtre Andrews l'avait attaqué dans la rue publique, ce qu'il dit au juge avoir donné occasion à sa visite au lieu de réunion publique, soutenant fermement que sa conduite n'avait enfreint aucune loi de cette nation. La procédure reprit alors comme suit, juge. Mais en ce que vous êtes trouvé à errer dans le pays, vous enfreignez la loi, car il y a une ancienne loi, selon laquelle si quelqu'un quittait sa demeure pour voyager dans le pays sans certificat d'un juge de paix, il devait être pris comme vagabond. Prisonnier, s'il existe une telle loi, lisez-la nous. Et s'il existe une telle loi, vous savez dans votre conscience qu'elle est contraire aux Écritures. Car les apôtres et les ministres de Christ allaient et venaient dans le pays, prêchant la parole de la vie éternelle, et ils s'ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés, et le nombre des saints et des frères augmentait chaque jour. Et la loi en vigueur dans cette nation permet à tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ d'avoir pleine liberté de marcher dans la foi, ce qui est conforme à l'Écriture. Juge, vous avez une langue éloquente et vous en êtes fier, prisonnier. Je nie l'orgueil, mais j'atteste la vérité, laquelle jugera l'orgueil et tourmentera tous ceux qui y vivent jusqu'à ce qu'ils soient détruits. À cela le juge ne répondit rien, mais poursuivit l'examen des autres prisonniers, lesquels, sans qu'aucun accusateur paraisse contre eux et sans preuve de la violation d'aucune loi, furent requis de fournir des cautions pour leur bonne conduite, ce qu'ils refusèrent car cela impliquait non seulement une reconnaissance de culpabilité, mais devait servir de frein à des démarches dans lesquelles ils croyaient avoir le devoir et l'appel religieux de s'engager avec diligence. Ils furent donc renvoyés en prison et y furent détenus jusqu'au 1 mois 1655, soit une période de près de 6 mois, soumis aussi à l'épreuve aggravée que constituait le refus fait à leurs amis de les visiter librement. Comme ils quittaient la cour, William Dewsbury, se tournant vers le juge, parla ainsi, « Selon la mesure dont vous usez envers nous, il vous sera mesuré en retour, et le Seigneur Dieu du ciel et de la terre jugera entre vous et nous, et vous rendra à vous et à chacun de vous selon les œuvres que vous avez faites. Et en ce jour-là vous saurez que ce qui est maintenant déclaré est la vérité, le Seigneur l'a dit, en qui nous nous confions, et il nous délivrera. » Les noms des autres prisonniers étaient Joseph Storr, Henry Williamson, John Whitehead, Marmaduke Storr, Thomas Coquette et Francis Ellington. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle mène à l'union avec Dieu dans son royaume.